raconte. Christophe Ondelatte.
On l'a appelée la démembreuse du canal. En mai 2016, à Toulouse, Sophie Mazala, une mère de famille de 51 ans, tue Marilyn Planche, l'une de ses collègues de travail. Et elle découpe son cadavre en morceaux. Et elle va les jeter dans le canal du Midi. Elle conserve juste la tête qu'elle enterre au pied de son balcon fleuri. Pourquoi ? Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Sophie Mazala.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En mai 2016, sur les berges du canal du Midi, à Toulouse, un promeneur découvre une jambe humaine. Le lendemain, à 200 mètres en aval, les policiers toulousains retrouvent un bras gauche dans un sac plastique. Et le lendemain encore, un bras droit et un tronc humain. En moins de 5 jours, les policiers reconstituent et identifient le corps de la victime. Marilyn Planche, disparue depuis 15 jours. Au vu du mode opératoire, les enquêteurs imaginent un crime du milieu. Mais en moins d'une semaine, ils identifient une suspecte qui n'a rien à voir avec le grand banditisme ou avec la mafia. Sophie Mazala est une collègue de travail de la victime. Arrêtée et interrogée, elle avoue tout, le meurtre et le découpage.
La question revient souvent chez ceux qui ont épousé la profession d'avocat. Comment défendre l'indéfendable, l'inexplicable ? Dans ce cas, le dossier est hors norme. Il s'agit de cette femme qui a tué, puis découpé sa collègue de travail la semaine dernière à Toulouse. Deux avocats pour la défendre. Ils évoquent une femme ordinaire.
Depuis samedi, la suspecte a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Saïs. Dès ses premières auditions, elle a confirmé avoir tué et découpé à la scie sa collègue de travail.
C'est une affaire médiatique hein, dans la région toulousaine. On a été sollicité d'abord par le juge d'instruction pour savoir à Mme Perresson, parce qu'on a fait cette expertise en dualité d'experts, donc à deux, savoir si on l'acceptait déjà. C'était un dossier un peu compliqué, donc on a bien sûr accepté. C'est un dossier intéressant pour tout expert psychiatre.
Florent Trappé, expert psychiatre.
Et en fait, l'expertise s'est déroulée au centre pénitentiaire de Seyss, qui est la maison d'arrêt locale à Toulouse. Et on l'a examiné au parloir, à la maison d'arrêt des femmes. Et on l'a examiné à de nombreuses reprises, hein, de mémoire, 7 ou 8 fois. On est revenu à la maison d'arrêt pour pouvoir mener à bien cette expertise. Ça fait 20 ans qu'on fait l'expertise, Madame Perresson 30 ans, donc on a une grande habitude quand même de ce travail. Donc nous, on n'a pas de prérequis par rapport à ce qui se passe. On la voit comme on voit les autres personnes qu'on voit qui sont mises en examen. On n'est pas du tout pollué par les médias. Moi, j'ai d'ailleurs regardé à l'époque aucun article de journal concernant cette affaire, parce que je voulais me faire ma propre idée. Et l'expertise, c'est droit dans des bonnes conditions. Hein. C'est quelqu'un qui, on le verra, qu'on abordera un peu son profil psychiatrique, qui a aucune maladie mentale, donc qui est parfaitement capable de s'exprimer, qui a tendance parfois à être un peu logorique, c'est-à-dire qu'elle parle beaucoup, elle a des propos qui sont assez diffluents, elle alterne des moments d'absence d'affect et des moments où elle s'effondre en pleurs, un peu sans raison, de manière assez curieuse. Mais elle est très adaptée à l'entretien, elle donnera beaucoup d'informations. Elle est bien orientée, on repère sa biographie avec une grande facilité, et elle ne montre pas de réticence à l'expertise, donc c'est vrai que les examens se passeront très bien. Et si on la revoit plusieurs fois, c'est pas parce qu'elle est réticente ou parce que l'expertise est compliquée, c'est parce que le dossier est complexe, que les faits sont quand même très originaux, et que ça mérite d'aller un peu au fond des choses. Chaque expert a des techniques différentes dans l'expertise. Pour ma part, moi j'aborde les faits en toute fin, justement pour pas polluer le rapport avec la personne que j'examine. Généralement, on se présente, on explique qu'on est mandaté par le magistrat, qu'on vient faire une expertise. Cette expertise tend à éclairer le magistrat sur l'éventualité d'un trouble mental qui aurait pu interférer avec le crime ou le délit qui a été commis. Donc on explique les choses, on l'explique, on n'est pas pour la magistrature, on n'est pas pour la mise en examen qu'on est totalement indépendant et qu'on vend un rapport indépendant et que ce rapport il ira aussi à son avocat qui pourra s'en servir pour assurer sa défense. Donc dans un premier temps, on explique la manière dont on va faire cette expertise. Généralement, on commence par la biographie, c'est-à-dire l'âge, le statut matrimonial, est-ce qu'elle a des enfants, son parcours professionnel.
Code B391. Rapport des experts psychiatres Perresson et Trappé. Sophie Mazala est née le 5 septembre 1964. Elle est donc âgée au moment de l'expertise de 51 ans. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Elle dit être conseillère pour l'association AGFIP. Elle se présente d'emblée comme une enfant adoptée car son père biologique s'est suicidé quand elle était très jeune.
Elle avait découvert son père alors qu'elle avait 10 ans, qui était pendu dans une cave. On peut bien imaginer à cet âge le traumatisme que ça peut constituer. Et lorsqu'elle l'évoque d'ailleurs, elle ne transmet aucune émotion dans l'expertise, elle le dit de manière très froide. Il faut y prêter de l'attention parce que ça révèle quand même une personnalité particulière. Généralement, lorsque les gens qu'on voit en expertise parlent de drames qu'ils ont vécu, notamment des parents, liés aux parents, des traumatismes, des agressions, ils ont de l'émotion. Et par contre, elle peut s'effondrer en pleurs en parlant d'autre chose qui nous apparaît tout à fait bénin et tout à fait inadapté. Donc ça veut quand même dire qu'elle a des fluctuations comme ça émotionnelles qui sont assez particulières. Elle a une froideur affective par moment, qu'on va retrouver d'ailleurs quand elle nous expliquera avoir tué Marilyn et qu'on expliquera la découpe du cadavre. Elle le fait sans aucune émotion, de manière très plaquée, sans affect.
Les experts psychiatres relèvent une deuxième fracture dans la vie de Sophie Mazala. Une relation très compliquée avec sa mère.
Sa mère a été extrêmement particulière pour elle. Elle nous fait le détail d'un milieu familial avec des disputes, des conflits, parfois même des violences. Un souvenir de peur. Une mère qui était, semble-t-il, aussi un peu mythomane. Elle nous dirait à un moment qu'elle a été élevée dans la culture du mensonge par sa mère. Elle l'a décrit comme une Madame Bovary, donc manipulatrice, avec une référence donc maternelle qui est pas très structurante.
Code B392. Rapport des experts psychiatres Geneviève Perresson et Florent Trappé. Sophie Mazala relate que sa mère trompait son père et qu'elle était connue dans le village pour ses relations extra-conjugales. Immédiatement après la mort de son père, sa mère s'est installée avec son amant. Même après ce remariage, sa mère a continué à avoir des amants.
Une mère qui avait des rapports sexuels assez fréquents avec des personnes très différentes, elle a été témoin, semble-t-il, de ces rapports sexuels. Elle l'a décrit comme une mère à deux faces, dans le mensonge. Une sirène qui attire et qui séduit, nous a-t-elle dit à un moment. Et c'est finalement à cause de ces relations très tendues avec elle qu'elle va quitter le foyer familial à l'âge de 20 ans. Cette mère, elle l'a adorée, elle l'a haïe après. Et à l'époque, elle n'a plus aucune relation avec elle. Elles sont totalement en rupture de lien. Donc on voit qu'il y a déjà dans la biographie, dans la petite enfance et dans l'adolescence, des éléments traumatiques qui pour nous sont intéressants parce qu'ils peuvent aussi parfois expliquer plus tard des passages à l'acte ou des fragilités ou des difficultés de construction psychique.
La victime de Sophie Mazala, Marilyn Planche, était sa collègue de travail. Dès lors, l'expert psychiatre explore la vie professionnelle de la tueuse. Elle a été instable, tumultueuse. À un moment, Sophie Mazala s'est même prostituée.
Elle a été dans une école, en contrat emploi solidarité à l'époque.
Florent Trappé, expert psychiatre.
Ensuite, elle était en office de tourisme, une formation bureautique, une formation d'anglais. Et en fait, en 2000, elle a fini par intégrer la faculté de médecine où son mari travaillait, en tant que secrétaire. Et c'est là qu'a survient un nouveau traumatisme encore. Troisième, donc, principal, c'est qu'elle est licenciée pour faute grave en 2010 parce qu'elle a détourné 17 000 euros dans les caisses d'une formation médicale continue. Pour, semble-t-il, les explications sont assez nébuleuses. Hein. Elle dit à certains moments qu'elle avait fait beaucoup de crédit à la consommation. À d'autres moments, elle dit qu'elle joue au casino et au PMU.
Ordonnance de mise en accusation de Sophie Mazala. Page 16. Le couple accusé des dettes à hauteur de 200 000 euros. Pour les rembourser, Sophie Mazala était devenue call girl entre mars et novembre 2010. Le couple louait un petit studio à Carnon, en banlieue de Montpellier, pour qu'elle reçoive en toute sécurité ses clients.
On a essayé de comprendre pourquoi il y avait eu cette prostitution. Alors, il y avait, semble-t-il, des problèmes d'argent, puisqu'elle devait rembourser la somme qu'elle avait volée dans cette faculté de médecine. Donc elle, elle explique comme ça, initialement. Et on peut aussi penser quand même qu'elle a été un peu traumatisée par le fait que sa mère, visiblement, avait des rapports sexuels avec d'autres hommes, qu'elle a été témoin de ces rapports sexuels quand elle était adolescente. Elle nous a aussi dit qu'au début, son mari avait placé une caméra dans les chambres dans lesquelles elle avait ses rapports sexuels et qui visionnait ces images et que ça lui procurait une excitation. Donc elle embraye aussi sur les problèmes sexuels du couple, sur les difficultés qu'il y a eu dans la sexualité. Donc à cette époque, donc quand elle avait parlé de ça, nous on avait immédiatement pensé peut-être à un crime sexuel, c'est-à-dire tout simplement qu'elle avait eu des avances de la part de la victime et qu'elle n'avait pas supporté ses avances, ou qu'il y avait eu des problèmes de ce type-là, et que c'est ce qui avait abouti au passage à l'acte. Alors il semble qu'effectivement, d'après ce qu'elle a dit à certains moments dans l'enquête, la prénommée Marilyn lui aurait fait des avances de type homosexuel. Mais elle n'aurait pas répondu favorablement. Donc on avait fini par conclure que ça ne semblait pas être le mobile essentiel, en tout cas, du meurtre de Marilyn.
Sophie Mazala a avoué ses crimes un mois plus tôt. Et les aveux de ce petit bout de bonne femme ont médusé les policiers.
Là, c'est bien passé entre elle et moi, mais si ça n'avait pas pu se faire, on aurait changé les rôles. C'est-à-dire qu'un de mes collègues aurait pris le relais.
Brigadier-chef Stéphane Mazelier, police judiciaire de Toulouse.
On a affaire à une personne de petite taille, assez mince, d'un certain âge, très discrète, on va dire. On avait l'impression d'avoir affaire à une personne entre guillemets normale, pas de signes extérieurs d'agressivité, de surprise, non, une personne normale à qui on signifiait une garde à vue, sans pour autant qu'elle s'interroge pour quelle raison on l'a placée en garde à vue, et quand elle a su les faits, pas d'étonnement particulier, on dira.
Alors, madame, pour commencer, nom, prénom, profession. Je m'appelle Sophie Mazala. J'ai 51 ans. J'ai deux enfants. Je suis conseillère dans une association pour l'intégration des personnes handicapées à Toulouse. Le week-end, je rentre chez moi auprès de mon mari et de mon fils de 19 ans qui vit toujours avec nous à Montpellier. J'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Marilyn. Bien, quoi qu'il en soit, maintenant, eh bien, on vous embarque à Toulouse, à la police judiciaire, pour le reste de votre garde à vue.
Dans ce véhicule, parce qu'il ne faut pas, croire que pendant 2h30, on n'échange pas dans la voiture avec la personne qu'on a en garde à vue. Et donc, il y a quand même un échange. Un échange, on essaye de mettre en confiance la personne qu'on a devant nous, de lui parler un peu de tout, un peu de l'affaire, un peu de sa vie, et on crée des liens. On crée des liens, du moins on essaye. Et arrivé à Toulouse, là on revient dans le contexte professionnel, dans le contexte de l'enquête, où il y a un avocat à côté d'elle, et où il faut aller, ben, sur 48 heures de garde à vue, il faut aller, comme on dit, rapidement, tout en n'excluant pas les différentes hypothèses et les différentes traces qu'on a trouvées durant l'enquête. Et donc là, je pense que cette partie transport sur Toulouse a permis de faciliter le contact entre elle et nous, enquêteurs. Donc on a joué sur ça, on a joué sur la fragilité de la vie d'enfant qu'elle a eue, de voir son père se suicider, ce sont des choses, des moments horribles de la vie, de sa vie. Et donc là, mais ça en est un autre, c'est un moment horrible de sa vie, mais là elle est acteur, actrice principale. Et on lui a dit, mais regardez madame, regardez ce que vous avez fait Regardez, c'est quoi cette partie de corps qu'on retrouve dans un sac poubelle dans le canal du Midi? Ne serait-ce pas la partie de corps de votre collègue de travail? Pourquoi? Ça y est, on a des pleurs, on est face à l'horreur, on a des pleurs, elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Devant les photos qu'on pouvait lui montrer, devant ce qu'on pouvait lui dire de ces différentes scènes de crime, en lui mettant aussi ce que pouvaient penser ses enfants d'elle, son mari, pourquoi être arrivé là, et petit à petit, on a réussi à la faire craquer, à la faire pleurer, et à ce qu'elle dise que effectivement, c'était elle qui s'était rendue coupable de ce meurtre.
Ordonnance de mise en accusation de Sophie Mazzella, page 8. Le 12 mai 2016, Sophie Mazzella quittait son travail alors qu'elle n'allait pas bien. Elle avait échangé des textos avec Marilyn Planche qui lui avait proposé de la retrouver chez elle à son appartement. Sophie Mazzella est montée dans l'appartement de sa collègue et une altercation a éclaté entre les deux femmes. Sophie Mazzella s'est retrouvée dans un état second, dans un excès de colère.
Et dans un cadre de légitime défense, on va dire, Madame Mazzella aurait porté un coup de bouteille sur le crâne de Madame Planche qui l'aurait fait chuter au sol. Et de là, elle aurait quitté précipitamment l'appartement et laissé à ce moment-là, elle n'était pas encore décédée, mais elle avait quitté précipitamment l'appartement.
Code B398. Rapport des experts psychiatres Geneviève Perresson et Florent Trappé. Sophie Mazzella relate qu'après avoir tué Marilyn, elle aurait vomi, puis se serait nettoyée. Elle dit avoir agi comme un robot. Elle a regardé le corps et elle est partie. Elle est rentrée chez elle, puis elle a pleuré. Elle est revenue à l'appartement de Marilyn et elle dit avoir sonné à la porte. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle était morte. Elle a tiré le corps sur le lit, puis elle l'a recouvert. Elle dit avoir paniqué à l'idée d'être accusée de meurtre. En voyant une lame de rasoir, elle a eu l'idée de la faire suicider et elle lui a entailler les poignets.
Voilà. Et par suite, une semaine s'est écoulée. Madame Mazzella a continué sa vie comme si de rien n'était, puisqu'elle est allée passer même le week-end à Montpellier dans sa famille. Et dans ce laps de temps, l'enquête a permis de démontrer qu'elle s'était renseignée via Internet comment démembrer un corps, qu'elle avait regardé également quel outil il fallait employer, où on pouvait trouver ces outils, comment effacer les traces avec des produits détergents, comment transporter un corps démembré. Et donc, pendant une semaine, il y a eu tout un cheminement un peu criminel où elle s'est renseignée, puis elle est passée à l'acte, c'est-à-dire acheter une scie, acheter un cutter, acheter une valise, acheter des sacs poubelles, comment procéder au démembrement. Donc on est rentré dans l'horreur, dans ces auditions.
Face aux policiers toulousains, Sophie Mazzella craque immédiatement. Oui, elle a tué sa collègue parce qu'elle s'était engueulée. Elle l'a frappée à coups de bouteille de vin. Et oui, elle a ensuite découpé son cadavre. Sophie Mazzella raconte tout ça d'une traite, sans omettre aucun détail. Glaçant.
Ben, c'est assez glaçant parce qu'on a une explication assez précise de la manière dont elle a procédé au démembrement.
Brigadier chef Stéphane Mazelier, police judiciaire de Toulouse.
En fait, la partie du membre qu'elle voulait trancher, soit à la scie, soit au cutter, elle positionnait pour ne pas voir le reste du corps et être effrayée par la vue de ce corps, de sa collègue. Elle rassemblait deux serviettes aux deux extrémités du membre à découper et elle procédait au démembrement. Donc c'était méthodique. En fait, elle explique ses torchons et ses serviettes qui étaient posés sur les différentes parties du corps de la victime, c'était en fait pour cacher le corps de la victime. Parce que Madame Massala était quand même face à l'horreur. Et donc, pour en cacher le maximum, elle se servait justement de ces draps, de ce linge, pour ne pas voir le reste du corps. Et elle cachait notamment la tête.
Ordonnance de mise en accusation, page 9. Sophie Massala répartissait les parties de corps dans différents sacs poubelles, et elle a ajouté ne pas avoir lesté les sacs en espérant qu'ils soient découverts rapidement. Elle s'était débarrassée de son couteau en céramique dans une poubelle de Saint-Georges. Et elle avait conservé la scie sous son matelas, arguant du fait qu'elle était trop grande pour une poubelle. Et qu'il restait des morceaux collés dessus qu'elle n'arrivait pas à enlever.
Elle est... Aucune émotion quand elle évoque ce crime. Elle explique avec pondération, sans modulation au niveau de la voix.
Florent Trappé, expert psychiatre.
Donc c'est assez étonnant. Hein. Et même lorsqu'elle explique le découpage, elle explique de manière très scientifique presque, hein, que ça a été difficile de découper. C'est vrai que c'est compliqué de découper des articulations d'un être humain. Donc elle explique ça, que ça a été compliqué. Mais il n'y a aucune émotion. Et elle en parle de manière très froide.
Code B398. Rapport des experts psychiatres Geneviève Perresson et Florent Trappé. Sophie Massala s'étonne devant nous de la rapidité du démembrement. Je suis allé à Auchan acheter un couteau à viande et une scie à métaux. Et en 2 heures, c'était fait, docteur.
Ah ben ça inspire une grande interrogation. Déjà en 21 ans d'expertise, moi j'ai été confronté à des individus comme ça qui ont découpé des corps et ils ont caché que 2 fois. Sachant qu'on travaille quand même beaucoup, donc c'est pas énorme, hein, vous voyez, c'est pas très fréquent, on le voit pas trop non plus dans les médias. Donc c'est vrai qu'on pense plutôt dans les mutilations comme ça, à des règlements de compte, à des personnes, déjà des hommes, hein, pas des femmes, c'est quand même moins fréquent. Donc c'est très étonnant, c'est très étonnant.
Ce qui est étonnant, c'est que dans l'histoire de la police judiciaire, des actes d'une telle horreur sont très rarement commis par des femmes. On trouve plus dans l'histoire des hommes qui démembrent d'autres personnes, mais des femmes démembreuses, il y en a eu très peu. À mon souvenir, je crois que c'était la 3e.
Alors l'explication, je pense que tout le monde se la pose. Pourquoi est-ce qu'elle a découpé ce corps? Pourquoi est-ce qu'elle l'a mis dans des valises et qu'elle l'a jeté au bord du canal? L'explication la plus simple, c'est qu'elle a voulu effacer toute preuve de vie de la victime et qu'elle a voulu se mettre donc à l'abri d'une éventuelle incarcération ou mise en examen. Et après, on peut avoir des explications un peu plus psychanalytiques qui valent ce qu'elles valent, qui sont pas forcément des explications très probantes par rapport à ce qu'elle a commis. Nous, on avait évoqué à un moment que peut-être le fait comme ça de disperser le corps dans des valises et les mettre dans le canal, c'était peut-être pour disperser aussi son angoisse, et disperser un peu les faits qu'elle avait commis, ne plus avoir dans la conscience en fait, ne plus être le criminel qui avait commis cet acte. J'y crois peu. Moi, je pense surtout que ça a été quelque chose qui a été très technique et très matériel. Ce qui est étonnant, c'est que elle aurait pu faire ça immédiatement après avoir tué le corps, donc. Et ce qu'on observe, c'est qu'elle le fait avec un temps de latence, hein, de plusieurs heures, puisqu'elle rentrera à Montpellier chez elle, puis elle revient, elle va dans un supermarché acheter ce couteau et cette scie. Donc les choses sont quand même très réfléchies, hein. On n'est pas face à un acte irréfléchi, qu'on appelle dissociatif, c'est-à-dire où quelqu'un, du fait de la prise de conscience du meurtre, va perdre quelque peu un rapport à la conscience et va commettre après cette mutilation de manière un peu robotique. Ce qui est étonnant chez elle, c'est que le deuxième fait de mutilation se commet plusieurs heures après. Donc on n'est pas du tout dans la prise de conscience justement de ce qu'elle a fait, de son meurtre et du fait que la victime est décédée. Elle voulait réellement se débarrasser du corps, disperser les membres. Elle a nettoyé le sang dans l'appartement de la victime. Donc on est dans un fonctionnement qui n'est pas du tout d'ordre pathologique au niveau psychiatrique.
En garde à vue, Sophie Mazala avoue tout. Il lui reste à répondre à une dernière question. Qu'a-t-elle fait de la tête de Marilyn Planck ? Elle finit par lâcher ce dernier secret devant la juge d'instruction. Madame la juge, je l'ai enterrée sous mon balcon, dans le jardin de la résidence. Et Sophie Mazala avance, immobile. Elle était jalouse de sa collègue Marilyn. Au point de la tuer et de la démembrer froidement, les experts psychiatres sont sceptiques.
Alors le mobile dans ce dossier, il est extrêmement complexe à déterminer. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la solution du mobile.
Florent Trappé, expert psychiatre.
Il est totalement dérisoire. On ne sait qu'en penser. Elle a tellement changé de version, d'explication au cours des mois qui ont suivi sa mise en examen, qu'il faut rester très prudent sur le mobile. L'hypothèse la plus crédible qu'on a pu évoquer, c'est qu'elle avait surpris visiblement chez la victime Marilyn, donc des dossiers de l'entreprise dans laquelle elle travaillait, qu'elle pensait qu'elle détournait ses dossiers chez elle, qu'elle a voulu lui expliquer qu'elle allait en parler à la direction. Et que cette dame s'est énervée, qu'elles se sont battues. Et à un moment, Marilyn l'a bousculée et s'est mise à crier « Tu ne comprends rien, je suis comme ta mère, tu ne peux rien me faire. » Et ça peut être un des éléments détonateurs, parce que la relation à la mère est quand même très pathologique. Et lorsqu'elle entend ça, elle tue Marilyn parce qu'elle tue sa mère. Tout simplement. L'image de sa mère, qui est une image traumatique pour elle, elle s'en débarrasse et elle tue sa mère. C'est aussi une possibilité. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas dit ça non plus pour nous amener dans une direction ? C'est possible aussi, c'est une personne intelligente. Hein. Elle est capable de manipulation. Donc là, ce sont les limites de l'expertise. Donc on est arrivé à un moment où on savait plus ce qu'il fallait penser. S'il fallait la croire, s'il fallait pas la croire. Et ce qu'on observe, quand on regarde un peu les différents examens qu'on a pu pratiquer avec elle de manière globale, c'est que il y a beaucoup de choses qui se contredisent, beaucoup de choses qui changent. Donc clairement, elle n'est pas très crédible dans ce qu'elle raconte. Séductrice, manipulatrice et parfois fabulatrice.
À Toulouse, c'est un meurtre particulièrement sordide qui doit être jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises, celui d'une femme assassinée par sa collègue de travail.
Cette dernière aurait agi par jalousie, elle s'est débarrassée du corps coupé en morceaux dans le canal du Midi, ce qui lui a valu ce sinistre surnom de dépeceuse du canal.
Moi, j'ai préparé ce dossier de manière un peu particulière parce que les faits se sont commis à 50 mètres de chez moi.
David Sena, avocat général.
Et le hasard a fait que j'étais pratiquement le voisin de Marilyn Planck et qu'ainsi, donc, j'en ai eu une connaissance un peu plus particulière et en effet, je m'y suis particulièrement intéressé. J'ai regardé tout ce que je pouvais en effet trouver outre le dossier dans ce que la presse avait publié en photographie, les lieux, les endroits du canal du Midi. Qui étaient les lieux où elle avait donc déposé les membres de Marilyn Planck. Donc moi je me suis rendu à tous ces endroits pour voir où ça s'était passé parce qu'encore une fois c'était au cœur de la ville. C'est un crime qui est commis au cœur de la ville à un endroit où on n'imagine pas ou encore moins que ça puisse se produire.
Elle voulait montrer qu'elle n'était pas cette collègue parfaite que tout le monde décrivait, prouver qu'elle cachait chez elle des dossiers de personnes qu'il suivait à la GFIP, cette association pour personnes handicapées. Alors elle l'a attendue, chez elle, l'a frappée à plusieurs reprises avec une bouteille de vin. Sauf que quand elle réalise que la victime est morte, elle se rend compte qu'elle ne peut pas transporter son corps. Alors après plusieurs jours, qu'elle passe chez des proches, à Montpellier, Sophie Massala revient, achète une scie à métaux, des sacs poubelles pour sa macabre besogne et après plusieurs voyages, fait disparaître sa victime dans le canal du Midi. Elle ne va garder que sa tête, qu'elle enterre sous quelques centimètres de terre dans son propre jardin. Pour maître Georges Catala, l'avocat des proches de la victime, la préméditation ne fait aucun doute.
C'est une femme qui, d'une façon très curieuse, a planté la corne, si je puis dire, à l'encontre de ma cliente. Elle n'a cessé de dire qu'elle a haïssé et elle va se saisir des clés de la victime. Elle va se tapir en l'attendant pendant près d'une heure, une heure et demie.
Sophie Massala, elle affirme qu'elle n'a jamais voulu la tuer, juste s'expliquer avec sa collègue. Et c'est précisément cette question du mobile, de la préméditation, qui sera au cœur des débats pendant toute cette semaine, alors que l'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Faites entrer l'accusé.
Et on voit quelqu'un qui, dans le fond, a une apparence tout à fait banale, normale, comme très très souvent d'ailleurs les criminels. Je dirais que c'est aussi ça le paradoxe, hein, la grande surprise, et qu'il n'y en ait pas. On voit une jeune femme, dans le fond, à qui on ne reprocherait rien si on ne savait ce qu'elle avait commis. Donc on est en présence, encore une fois, d'un comportement qui traduit la volonté de nier l'humanité de la victime, à la fois en le tuant, c'est la première négation, et surtout la seconde négation, qui est beaucoup plus grave, c'est la volonté de faire disparaître le corps purement et simplement, avec toujours ce cocktail de naïveté et d'orgueil qui font qu'à un moment donné, une personne humaine se croit capable de faire disparaître purement et simplement un corps humain par l'effet d'un processus chimique qui, en l'espèce, c'était la décomposition, enfin la découpe et la décomposition d'un corps, bon, malgré les lois de la nature, la poussée d'Archimède qui fait qu'un corps, même des membres, même découpés, remontent à la surface et que même une tête enterrée, on finit par la découvrir. Donc, il y a dans ce dossier de la banalité dans le crime, il y a un degré de cruauté particulier et il y a ce mélange d'orgueil, de toute puissance dans la volonté, dans la certitude qu'on va faire disparaître le corps et qu'on va donc faire disparaître le crime et toute forme de culpabilité.
Direction la cour d'assises de Haute-Garonne où le procès de la démembreuse du canal se poursuit. Les détails macabres et les incohérences s'accumulent. Nous retrouvons Amélie Poisson sur place. Alors Amélie, le moment était très attendu aujourd'hui. L'accusée Sophie Massala est en train de parler et ça devrait durer.
Oui, tout à fait. Son audition vient tout juste de s'achever ici. Effectivement, le président a prévenu que ce serait long. Il a décidé de découper cette audition par tranches. Le premier sujet abordé ce soir était celui de vol de chèques à la faculté de Montpellier en 2010, des vols pour lesquels elle a été condamnée et qu'elle a justifié en disant qu'elle ne savait pas dire non à son mari, ni pour un ordinateur ou une console. Autre sujet abordé ce soir, celui de sa sexualité. Sophie Massala s'est prostituée pour rembourser des dettes. Elle consultait aussi des sites pornographiques, un jeu, selon elle, avec son mari. Sa première déclaration était pour exprimer sa honte et dire sa difficulté pour elle de dire la vérité.
On vole, on détourne, tout ça n'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire, sauf que ça traduit, je veux dire, une absence totale de limite. Et là, elle se trouve finalement face à une personne, Marilyn Planche, qui est dans le fond non pas son double, mais son contraire tout à fait exact. C'est une jeune femme qui cumule un certain nombre de difficultés personnelles, elle aussi, en termes de santé. Elle a une mauvaise santé, elle a des problèmes de surpoids, pas quelqu'un qui a une vie personnelle riche, bien au contraire, elle est assez seule. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié, aimé. Dans son travail, elle est compétente, elle exerce une fonction de tutorat à l'égard des collègues qui arrivent donc dans l'entreprise, dans l'association dans laquelle elle travaille. Elle a un rôle un peu de mentor, elle est louée pour sa compétence, son investissement, elle travaille même le soir chez elle. Enfin, c'est quelqu'un qui, n'ayant absolument pas de qualité, je dirais, en termes d'image, en a beaucoup à l'intérieur d'elle-même. Et ça, Sophie Mazzala, je pense qu'elle ne le supporte pas. Il y a une jalousie, mais maladive. Marilyn Planche lui renvoie une image d'elle-même qu'elle ne supporte pas. Et dans le fond, voilà, elle tue moins Marilyn Planche, qui est en fond une victime complètement innocente, extérieure, mais elle tue certainement une part d'elle-même. Elle tue une part d'une personnalité qu'elle ne voudrait pas avoir. Dans le fond, on supporte assez bien la réussite des gens extrêmement brillants. Les gens médiocres supportent assez bien la réussite des gens brillants. En revanche, ils ne supportent pas la réussite de l'un des leurs. Ils ne le supportent pas. Et c'est à ce point-là que le désir mimétique devient une pulsion mortifère.
Quand la cour se penche sur les faits, les moments difficiles avec les détails macabres s'accumulent. Comme ce pied qui dépasse d'un sac poubelle quand il est retrouvé dans le canal du Midi. Un démembrement que Sophie Mazzala a du mal à expliquer. Après l'avoir tué, ma vie partait en morceaux, alors je lui ai rendu l'appareil.
Le désir mimétique, il est exprimé, il s'exprime à la fin par le fait de conserver la tête de Marilyn Planche en bas de sa fenêtre. Elle va enterrer, c'est la seule partie du corps de Marilyn Planche qu'elle ne va pas tenter de disperser dans les eaux du canal du Midi, puisque la tête, elle va la conserver et l'enterrer en bas de sa fenêtre sous une haie. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, véritablement, elle voulait la conserver, la garder, que c'était quelqu'un qui était, encore une fois, près d'elle, comme elle, qu'elle avait voulu faire disparaître, mais qui, en même temps, était une part d'elle-même.
Je suis un monstre, dira-t-elle, en demandant pardon à la famille.
Je crois qu'elle finit par livrer ce qui m'apparaît être la vérité.
Maître Pierre Dunac, avocat de Sophie Mazzala.
Elle le fait avec des mots qui ont le son de la sincérité.
Le mobile, une vague histoire de vol de tickets restaurant reste encore bien léger. Marilyn Planche me faisait penser à ma mère, dira l'accusée, comme elle m'a rejetée. Dans cette terrible affaire, la préméditation n'a pas été retenue. Ce soir, Sophie Mazzala encourt 30 ans de réclusion criminelle.
Après 3h30 de délibérée, Sophie Mazzala n'est pas condamnée à la peine maximale. Pour le meurtre de Marilyn Planche, elle écope de 27 années de réclusion criminelle. Le rapport des experts psychiatres Geneviève Perresson et Florent Trappé se termine ainsi. Nous excluons une dangerosité psychiatrique, mais Sophie Mazzala présente de graves difficultés relationnelles car elle projette constamment sa problématique personnelle dans son environnement. À ce titre, il est nécessaire d'envisager une psychothérapie et un suivi socio-judiciaire car elle présente un défaut de contrôle pulsionnel. C'était On de la Traconte Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez On de la Traconte Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.